Bonjour tout le monde, on commence ce cours et ce séminaire. La chose dont je vais parler aujourd'hui, je dois vous dire que c'est une des grandes choses de ma vie professionnelle. C'est probablement la plus belle découverte que j'ai faite. C'est une découverte, donc c'est en soi, pour celui qui l'a fait, intéressant, mais surtout, et ça je raconterai ça la semaine prochaine, c'est que cette découverte a ouvert, je dirais en même temps que deux études, une en Allemagne et une aux États-Unis à peu près à la même époque et de façon totalement indépendante, a ouvert la voie vers la découverte d'une immense famille d'enzymes qui fonctionne un peu sur le même principe que celui dont je vais vous raconter, que celui que je vais décrire ici pour cette enzyme. Alors comment ça... Donc je vais vous raconter un petit peu cette histoire et puis vous allez voir que ça débouche sur, à nouveau, des enzymes radicalaires, donc des systèmes qui mettent en œuvre des espèces extrêmement réactives qui sur le plan chimique sont compliquées à contrôler. Et là encore, ça se passe dans le contexte de la biosynthèse de l'ADN, puisque c'est ça le fil rouge. C'est la question, qui a inventé l'ADN au moment où on est passé du monde ARN au monde ADN. Bon, après ce cours, j'ai le grand plaisir d'avoir Henri Grosjean qui va nous parler d'une famille d'acides nucléiques extrêmement importante, ARN de transfert en particulier, et on a déjà évoqué le rôle central au début dans les premières étapes de l'évolution de la vie de ces acides nucléiques. Donc il va nous en parler, et là aussi il y a de la chimie très très intéressante, et c'est un angle sous lequel les aspects d'évolution sont assez, assez pertinents. Voilà. Alors, simplement, pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui étaient là pour s'en souvenir, vous vous souvenez que ce que j'ai raconté la dernière fois, c'est que chez les organismes qui fonctionnent à l'air, comme nous, la biosynthèse des désoxyribonucléotides, c'est bien la question dont je parle, qui sont les précurseurs de l'ADN, la biosynthèse est catalysée par une enzyme qui est la ribonucléotide réductase, qui est une enzyme d'une très grande complexité. Vous vous souvenez, ces transferts de radicaux à très longue distance. Voilà cette protéine. Et c'est la première protéine radicalaire qui a été découverte dans les années 60 par Peter Richard et qui a cette caractéristique de posséder un radical stable sur une des sous-unités rouges ici, parce qu'on en a la structure cristallographique, la protéine R2, donc un radical sur une tyrosine. C'est un radical phénoxy, et ce radical est absolument essentiel pour l'activité, je l'ai dit, et la question qu'on s'est posée, c'est comment cette information ici, simplement un atome d'hydrogène arraché, peut impacter 35 angstroms plus loin sur la chimie qui se développe dans l'autre protéine. Et donc là, on tombait sur ces concepts de transfert de radicaux à très longue distance qui sont assez exceptionnels. Le début de l'histoire commence comme ça, celle que je vais vous raconter. À savoir qu'au milieu des années 80, quand je rencontre Peter Richard, il nous apparaît évident que il y a un problème avec la question de la biosynthèse des désoxyribonucléotides chez les organismes anaérobies, c'est-à-dire qui fonctionnent en absence totale d'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'on savait que ce radical tyrosinyl, dont vous voyez ici le spectre RPE, que j'ai déjà montré, ce radical tyrosinyl ne se forme, c'est-à-dire cet atome d'hydrogène sur le phénol n'est arraché que parce que il y a de l'oxygène qui est utilisé comme oxydant pour faire cette transformation de cette tyrosine OH en tyrosine au point. Et que cette oxydation par l'oxygène de l'air est catalysé par un centre métallique. C'est un binucléaire de fer dont j'ai déjà parlé. Mais ce qui est très important ici, c'est que nos désoxyribonucléotides, les nôtres, notre ADN n'existe que parce qu'à un moment donné, il y a eu une oxydation très sélective sur cette tyrosine et que cette oxydation dépend de l'oxygène de l'air. Donc, on s'était dit, mais comment ça se passe? Curieusement, au milieu des années 80, personne ne s'était posé la question de savoir comment ça se passait chez les micro-organismes anaérobies, c'est-à-dire qui poussent sans oxygène, et clairement, on avait l'espoir de trouver une enzyme différente, bien sûr. Voilà, alors simplement pour dire que voilà à peu près les acteurs, c'est Peter Richard, j'en ai déjà parlé, et puis deux collaborateurs qui étaient là pratiquement depuis le début, Étienne Muliez qui est directeur de recherche au CNRS, et Sandrine Ollagnier qui est chargée de recherche au CNRS, qui est arrivée un peu plus tard, et voilà la question qui est posée. Alors, une façon la première question qu'on s'est posé, c'est est-ce que les désoxyribonucléotides chez une bactérie qui pousse en anaérobiose viennent des ribonucléotides? Alors, une manip très simple, vous prenez un ribonucléoside marqué, tritium, vous le donnez à des bactéries qui sont en croissance, et de ce tableau, je ne rentre pas dans le détail, mais très très clairement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de la radioactivité dans de l'ADN, et il y a de la radioactivité vous voyez, dans les désoxyribonucléotides. Il y en a évidemment dans les ribonucléotides CTP, c'est le triphosphate de la cytidine, et il y en a dans l'ARN, c'est évident, puisqu'on a donné un ribonucléoside tricié. Et là, la première observation évidente, c'est qu'il y a de la radioactivité dans l'ADN. Donc, c'est une indication que, également chez les micro-organismes anaérobies, les désoxyribonucléotides viennent des ribonucléotides. Et ça, à cette époque, on ne savait pas que c'était une règle générale, parce que les désoxyribonucléotides auraient pu être synthétisés tout à fait autrement, pas par voie de réduction des ribonucléotides, comme c'est le cas chez l'homme, les plantes, enfin, etc. C'est un système d'une très grande complexité. Très rapidement, on a observé qu'il y avait des petites molécules et puis des protéines qui étaient impliquées dans ce système. Pendant quelques années, on avait deux protéines qu'on appelait DA1 et DA3. Et je ne rentre pas dans les détails, mais la protéine DA3, c'est la ribonucléotide réductase. C'est la protéine qui va faire la réduction des ribonucléotides. DA1, assez rapidement, on a trouvé que c'était une enzyme de transfert d'électrons. On verra comment tout ça. C'est la flavodoxine réductase, c'est une enzyme à flavine qui est simplement là à prendre un électron d'un donneur et de le donner à un accepteur. On ne fait rien de plus que ça. C'est déjà pas mal, mais c'est une enzyme qui est impliquée dans des tas de processus aujourd'hui, dans les cellules, en particulier bactériennes. Assez rapidement, on s'est aperçu que cette protéine, quand on l'a purifiée en faisant très très attention à l'oxygène de l'air, tout ça évidemment est fait en absence totale d'oxygène. C'est une des difficultés d'ailleurs du travail. On a tout de suite vu que cette enzyme portait également un radical. Donc, pas d'oxygène, mais il y a un radical. Et ce radical a un spectre totalement différent d'un radical tyrosinyl. C'était évident que ceci ne pouvait pas être interprété comme étant la présence d'un radical tyrosinyl. Donc c'est un autre radical. Et assez tôt, on a compris que s'il n'y avait pas ce radical, si c'était éteint ici, plat, il n'y avait pas d'activité enzymatique. Donc il fallait ce radical. Et on a compris aussi que dès qu'on mettait un epsilon d'oxygène sur cette protéine, ce radical disparaissait et l'enzyme était inactive. On a observé aussi qu'il fallait des petits poids moléculaires. Je ne rentre pas dans le détail de comment. On a d'abord eu une fraction ici qui s'appelle LM100 parce qu'on faisait bouillir des extraits à 100 degrés pendant un certain temps. Et puis, dans ce qui restait du surnageant, il y avait quand même un élément qui était absolument nécessaire à l'activité. J'y reviendrai. Et puis, assez tôt, on a trouvé que cette molécule, la S-adénosylméthionine, était absolument nécessaire à l'activité. Le fameux LM100, comme je l'ai dit, c'est des extraits qu'on qu'on fait chauffer. Et on a essayé de purifier les éléments pour les caractériser qui étaient nécessaires dans cette fraction. Ici, c'est assez amusant parce que, enfin amusant pour ceux qui travaillaient à l'époque dessus, ce n'était pas si amusant que ça, parce qu'en réalité, on a purifié du potassium d'un jus cellulaire bactérien. Donc, vous imaginez ce que c'est que de purifier du potassium dans un truc aussi complexe qu'un jus bactérien, mais c'est exactement comme ça qu'on a fait pour identifier qu'il fallait du potassium. Et de la même façon, on avait, une fois qu'on avait ce potassium qui s'accrochait sur des colonnes qui fixent les métaux, alcalins en particulier, on avait une fraction, le reste, qui comportait deux éléments qu'on a aussi séparés. Et là aussi, on a purifié du formiate de ce mélange bactérien absolument infâme. Et pu montrer, je ne raconte pas l'anecdote, comment on a fini par identifier le formiate. Et donc le formiate est absolument nécessaire. Et on a mis très longtemps là pour comprendre, parce qu'on pensait qu'il n'y avait que des petits poids moléculaires dans ces extraits qu'on faisait bouillir très longtemps. Et en réalité, la dernière fraction, c'était une protéine. La flavodoxine est une protéine, une protéine à flavine, qui est d'une extrême résistance à la chaleur. On a mis très longtemps avant d'accepter l'idée que ce truc qu'on faisait bouillir si longtemps contenait encore une protéine qui était active. Voilà. Alors le formiate, tout de suite, voilà. Finalement, la ribonucléotide réductase anaérobie est une enzyme qui fait cette réduction relativement simple sur le plan du bilan. Contrairement à la classe 1 dont j'ai parlé la semaine dernière, ce n'est pas des dithiols qui font la réduction, c'est le formiate. Le formiate réduit les ribonucléotides en désoxyribonucléotides et en fournissant du CO2. Donc voilà la fonction du formiate, c'est le donneur d'atomes d'hydrogène ici, le réducteur. Alors je vous ai parlé de cette fraction DA3. Il a fallu attendre presque, on aurait pu trouver ça plus tôt, mais 5 ans, avant de constater qu'en réalité, ce qu'on purifiait, c'était notre fameux DA3, en fait, n'était pas une seule protéine, mais était deux protéines. Le problème, je vous montre ça ici parce que c'est un gel historique, quand pour la première fois, on a fait des gels qui séparaient donc les protéines, mais dans lesquels on faisait attention de ne pas migrer trop les protéines. Ce qui fait qu'on s'est aperçu de façon permanente qu'il y avait une petite protéine qui était toujours là et qui, en fait, est un des éléments essentiels. Donc, DA3 est en réalité une protéine. Celle-là, c'est la ribonucléotide réductase. C'est là où se fixe le ribonucléotide et où se fait la réduction par le formiate. Et ça, c'est autre chose, et je vais en parler tout de suite. Donc, en même temps, on s'est aperçu que chez Escherichia coli, sur lequel on travaillait, il y avait un opéron. NRDD, c'est la ribonucléotide réductase, c'est la grosse protéine, la plus lourde. Et en aval, il y a un autre gène, NRDG, et qui avait la taille qui pouvait correspondre qui pouvait correspondre à la taille de cette protéine. Donc on s'est dit, voilà, notre gel, ce sont deux protéines, l'une qui est codée par NRDD et une qui est codée par NRDG. Et en effet, si on exprime ce plasmide chez Escherichia coli, on a en effet de l'activité. Par contre, si on ne prend que NRDD, on n'a pratiquement pas d'activité. Donc tout ceci allait dans le sens où la protéine, la ribonucléotide réductase, je l'ai mis ici, NRDD, est active en présence d'un contaminant qu'on a appelé l'activase parce qu'elle permettait de rendre actif le système. En réalité, comme vous allez le voir, ce n'est pas un contaminant, c'est un élément du système. Et l'analyse des séquences de ce NRDG montrait montrait que il y avait trois cystéines dans cette séquence CX3, CX2C, les X étant n'importe quel acide aminé et C étant cystéine. Et cela nous a laissé penser que cette protéine était une protéine fer-soufre. Et en effet, comme vous allez le voir sur quelques données, cette protéine est une protéine fer-soufre. Alors juste, j'ai déjà peut-être montré ces choses-là, juste pour rappeler ce que c'est que des assemblages fer-soufre, des clusters fer-soufre. Ce sont des centres métalliques assez complexes. Il y en a d'ailleurs des plus complexes que ceux qui sont présentés ici. Peut-être à une autre occasion, je raconterai des choses sur la chimie de ces clusters fer-soufre. Ce sont des systèmes métalliques qui, pendant très longtemps, ont été considérés comme très limités sur le plan fonctionnel, à savoir simplement des transféreurs d'électrons, dans des chaînes de transfert d'électrons, prenant un électron d'un donneur et le donnant à un accepteur tout au long d'une chaîne. Voilà, ça se limitait à ça. Bon, en réalité, mais ce n'est pas le sujet ici, en réalité, ce sont des centres métalliques que la nature a sélectionnés et placés dans de nombreux systèmes pour avoir tout un tas de fonctions. Ça peut être donc du transfert d'électrons, ça peut être de la chimie redox, ça peut être de la chimie non redox, ça peut être de la régulation de transcription de gènes, ça peut être de la régulation de traduction de gènes, etc., etc. Donc c'est extrêmement abondant et c'est présent dans tous les organismes vivants, eucaryotes, procaryotes, archébactéries, etc., etc. Alors simplement, ce sont des systèmes, je prends celui-là parce que c'est celui qui va nous intéresser, ce sont des systèmes qui sont fixés à la protéine le plus souvent par des cystéines, comme on peut le voir, donc par des atomes de soufre. Voilà un cluster dit 4 fer, 4 soufre au sein d'une protéine, n'importe laquelle. Et en général, ce sont des systèmes polynucléaires. Ici, vous avez 4 atomes de soufre, et voyez qu'il y a des 4 atomes de fer, pardon, et il y a des atomes de soufre qui sont en pont entre plusieurs atomes de fer. Donc, pour synthétiser ce type de cluster, la nature doit mobiliser du fer de source disponible et mobiliser du soufre de source disponible. Voilà, c'est ça les clusters fer-soufre. Et en effet, là aussi, je rentre pas dans les détails parce que c'est assez... il y a tout un tas de spectroscopie un peu compliquée qui permettent d'identifier la nature du cluster et ses propriétés redox, ses états redox. C'est la spectroscopie UV visible, la spectroscopie RPE et la spectroscopie Mossbauer, qui est une spectroscopie nucléaire qui permet d'avoir des informations sur l'état redox des ions fer. Tout ça combiné nous dit la chose suivante. Alors vous voyez, ici vous avez des bandes d'absorption, donc ce sont des entités qui sont colorées, hein, comme souvent pour les complexes de métaux de transition, qui sont colorées, qui sont marron. Voilà. Donc on avait cette bande qui est assez caractéristique des fameux 4 fer, 4 soufre dont je vous ai parlé. Quand on les soumet à l'oxygène, vous voyez, cette bande disparaît, en fait, le cluster se dégrade, part en morceaux. Donc là aussi, cette partie-là est assez sensible à l'oxygène. Donc j'ai dit que le radical était sensible à l'oxygène, mais celui-là également. Enfin, ce cluster également. À l'état, lorsqu'on purifie l'enzyme, le cluster est silencieux en RPE, il n'y a pas ce signal-là, c'est plat. Et ça, c'est une indication, et c'est confirmé aussi par la spectroscopie Mossbauer, que vous avez un état dit 4 fer, 4 soufre de plus, dans lequel vous avez deux atomes de fer-3 et deux atomes de fer-2. Donc c'est un mélange fer-3, fer-2. Comme il est équimolaire et qu'il y a un couplage antiferromagnétique, tous les spins célibataires s'annulent du point de vue magnétisme, et donc on n'a aucune propriété magnétique. Par contre, quand on envoie un électron, on crée une espèce qui a un électron non apparié avec quiconque, et donc vous avez ce qu'on appelle un spin 1,5 qui se caractérise par ce spectre RPE. Donc je dis tout ça, je rentre un peu dans le détail, mais parce que tous ces outils-là vont revenir peut-être après, en particulier ça. Donc quand on a ça, on a une signature, on sait que notre cluster 4 fer 4 soufre est présent dans la protéine. À nouveau, hein, c'est la petite protéine NRDG. Et c'est une sonde pour vérifier qu'elle est là. La spectroscopie Mosbauer a été utilisée aussi pour détailler un petit peu le mécanisme de décomposition du cluster en présence d'oxygène. On part d'un 4 fer 4 soufre, il se dégrade intermédiairement. Vous voyez, le spectre est assez différent de celui-là. Intermédiairement, on passe par un 2 fer 2 soufre qui a perdu 2 atomes de fer, 2 atomes de soufre. Ce sont des entités qui sont relativement stables, mais à nouveau, quand on continue à avoir de l'oxygène, on soumet de l'oxygène, ces clusters continuent à se dégrader. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais ensuite ce de fer disparaît et puis on perd l'assemblage des fers et des soufres. Donc on a des systèmes extrêmement sensibles à l'oxygène. Ça a été une grosse difficulté de ce projet qui a duré des années, en particulier parce qu'il nécessite de travailler dans des boîtes à gants extrêmement performantes. Voilà, alors comment assembler tout ça ? Oui, peut-être, je vais quand même dire que ce radical, je ne raconte pas toute l'histoire, mais on a pu, disons, au milieu des années 90, identifier de quel radical il s'agissait, on y reviendra. C'est un radical qui est localisé non plus sur une chaîne latérale d'un acide aminé, mais sur la chaîne primaire. C'est une glycine. C'est aussi un acide aminé qui a été radicalisé. C'est une glycine qui a perdu un atome d'hydrogène. Et là, je fais la même remarque que je fais chaque fois pour les ribonucléotides réductases. C'est assez, et peut-être je le redirai, c'est assez fascinant que la synthèse de l'ADN, en tout cas chez ces organismes-là, qui vivent sans oxygène, la synthèse de l'ADN dépend qu'un seul atome d'hydrogène ait été arraché sur une glycine d'une protéine composant le système ribonucléotide réductase. Donc ça tient à peu de choses. Et c'est tellement important qu'il y a un système complexe pour former ce radical. Alors, essayons de mettre les choses ensemble. La protéine bêta qui est NRDG, qui contient le cluster 4 fer 4 soufre, on a pu, par tout un tas de méthodes, démontrer que ce cluster servait à fixer la S-adénosylméthionine, qui est cette molécule. J'aurais dû dire, mais je le fais maintenant, que cette molécule, elle est très connue des biologistes. Elle est très connue des biologistes parce que c'est l'agent méthylant biologique par excellence. Ce groupement méthyl ici, vous voyez, c'est un sulfonium avec ce soufre chargé plus, trivalent. C'est un méthyle qui est extrêmement électrophile. Donc si vous avez des nucléophiles dans la solution, ça peut être une protéine, un acide nucléique, un lipide, enfin tout ce qu'on veut, à ce moment-là, il attaque ce méthyle et puis vous libérez le reste de la molécule. Et donc c'est un agent de méthylation. Donc méthylation de l'ADN, méthylation de protéines, méthylation d'ARN de transfert. Voilà. Mais là, il n'y a pas du tout de problème de méthylation dans cette enzyme. Donc, c'était une chose extrêmement étonnante d'avoir cette S-adénosylméthionine présente dans cette enzyme et absolument nécessaire. Bon, ce qu'on observe ici, simplement par ces modifications de spectre, vous voyez, ça, c'est le spectre initial, et puis on rajoute des quantités croissantes de S-adénosylméthionine, le spectre change et ceci est une indication que cette molécule se fixe sur le cluster. Alors, peut-être vous vous souvenez que j'avais noté que la protéine NRDG avait une séquence CX3-CX2C, c'est-à-dire uniquement 3 cystéines et pas 4. Donc, il n'y a que 3 fers qui sont accrochés par des cystéines et il reste un atome de fer sans ligand. Tout un tas d'études spectroscopiques, et notamment des études de résonance paramagnétique électronique, d'I-score, d'Andorre, enfin, etc., ont montré que cette S-adénosylméthionine s'accrochait au fer, au quatrième fer, par le biais de cette partie aminocarboxylate de la S-adénosylméthionine, donc par ce bras-là. Ce bras-là se fixe d'ailleurs de façon bidente sur le fer. Bon, ça c'est d'autres informations. Alors, une avancée tout à fait importante, c'est évidemment chaque fois en enzymologie, c'est la détermination de la structure aux rayons X de la sous-unité alpha, c'est-à-dire de NRDD, de la grosse protéine, que voici, ça a été fait en particulier, donc vous voyez, c'est un papier de Science en 1999 par Per Nordlund et Derek Logan. Donc ils ont pu obtenir cette sous-unité. Donc à nouveau, ce n'est pas celle qui porte le cluster et ce n'est pas celle qui porte le radical. Et c'est celle qui porte le radical. Ils ont pu obtenir la structure rayons X avec une bonne résolution et en présence d'un substrat. Et donc ils ont pu voir le site du substrat. Si on zoome là-dessus, on voit des choses très intéressantes. D'une part, le site, ici c'est le GDP, le site du substrat, ici le ribonucléotide, qui est fixé et qui est en voie d'être réduit. Le ribose est ici entouré de 2 cystéines, sur une face, cette cystéine 290, et sur l'autre face, la cystéine 79. Et la glycine, qui est transformée en radical glycinyl, est ici. Alors vous voyez que c'est une alanine parce que pour faire cette structure, ils ont fait un mutant dirigé en transformant la glycine en alanine pour ne pas être confronté au problème d'avoir des radicaux et de réactivité avec l'oxygène qui pourrait, comme vous allez le voir, casser la protéine. Ils ont voulu s'assurer d'une stabilité. Évidemment, cette protéine n'est pas active parce qu'il n'y a pas la glycine, mais la glycine est là. Donc, le radical glycinyl qui est positionné ici, qui est normalement positionné ici, vous voyez, est pas très loin du substrat. Mais il est quand même assez loin. Enfin, ça veut dire qu'il ne peut pas réagir directement, et en particulier au milieu, il y a une cystéine. Donc, on est dans une configuration qui est totalement différente de la classe 1 dont j'ai parlé la semaine dernière, à savoir que le radical stable n'est pas sur une deuxième protéine avec la nécessité d'un transfert de radicaux à 35 angstrom. On est dans une situation où la nature a choisi de placer le radical pas loin du substrat. Mais à nouveau, beaucoup trop loin pour que ce radical réagisse directement sur le substrat. Ce que je voudrais dire, c'est que aussi, ce que la structure aux rayons X a permis d'apporter, c'est des informations quelques informations sur la régulation allostérique de cette enzyme. Donc, vous vous souvenez, je l'ai dit, et c'est la même chose pour cette enzyme anaérobie, ce système, ribonucléotide réductase, c'est que la même enzyme réduit les 4 ribonucléotides. Et donc, à nouveau, pour faire attention qu'à la fin, la production des désoxyribonucléotides soit parfaitement bien contrôlée, c'est-à-dire que les taux relatifs dans la cellule des différents désoxyribonucléotides soient bien maîtrisés, il faut un système de régulation allostérique d'une très grande complexité aussi dans cette enzyme. Et en particulier, les 4 désoxyribonucléotides ATP, DATP, DGTP, DTTP se fixent sur un site Donc ça, c'est la classe 3, c'est celle dont je parle. Hein, c'est, la classe 1, c'était celle de la semaine dernière. Et lorsque vous avez de l'ATP, l'enzyme se met à réduire du CTP, de la cytidine. Et c'est pareil avec le DATP. Ensuite, le DGTP conduit à la réduction de l'ATP et le DTTP à la réduction du GTP. Donc, il y a une régulation extrêmement fine. Alors, il s'avère que, assez récemment, j'ai pas mis ici, j'ai oublié de mettre la référence, mais c'est assez récent, donc les cristallographes ont pu obtenir des structures aux rayons X avec les effecteurs allostériques, hein, c'est-à-dire soit l'ATP, soit les désoxyribonucléotides, qui sont les produits de la réaction et qui ont effet de feedback, de régulation feedback. Donc ils ont pu identifier le site où se fixaient ces régulateurs allostériques. Je parle de cette régulation allostérique pas tant parce que on sait beaucoup de choses, on sait très peu de choses, c'est très compliqué, mais parce que ça va être un élément plus tard pour moi pour discuter des aspects d'évolution entre les différentes ribonucléotides réductases, parce que cet aspect de régulation allostérique va jouer un rôle important dans notre réflexion. Là, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que la fixation d'une petite molécule ici a un impact sur le choix que l'enzyme fait 25 angstroms plus loin. Donc, de subtiles modifications conformationnelles se traduisent en des réactivités extrêmement différentes de l'enzyme. Là aussi, l'idée, c'est qu'entre les deux, il y a une boucle. Les auteurs de ces travaux ont pu obtenir des combinaisons diverses. Ici, c'est un effecteur allostérique qui est le DTTP. Ici, c'est un effecteur allostérique qui est le DATP. Et comme vous pouvez le voir, la forme des boucles est différente. Et l'idée, c'est que ce sont ces petites modifications de boucles qui permettent, à longue distance, de dire à l'enzyme: maintenant, tu réduis ce ribonucléotide et tu ne réduis pas l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà peut-être Voilà au bilan ce qu'on sait de cette ribonucléotide réductase sur le plan structural. Pour le moment, je n'ai pas tellement parlé de chimie, je vais y venir. Mais sur le plan structural, donc c'est cette enzyme qui, chez tous les organismes anaérobies, qui poussent en absence d'oxygène, catalyse donc la réduction des ribonucléotides par le formiate en désoxyribonucléotides, fournissant ainsi CO2. Cette enzyme est composée de deux partenaires protéiques. D'une part, ce que j'ai appelé la sous-unité alpha, qui est l'équivalent c'est le produit du gène NRDD dont j'ai parlé, qui porte un radical stable en absence d'oxygène, qui est un radical glycinyl. Alors, c'est la première fois que je montre ce que c'est qu'un radical glycinyl. Vous voyez, ça, c'est une glycine avec un CH2 entre le carboxyle et l'amine. Et là, il y a simplement un atome d'hydrogène qui a été arraché. Il manque qu'un seul atome d'hydrogène. Il s'avère que plus récemment, en 2003, on a montré qu'il y avait aussi une boucle dans laquelle il y avait la fixation d'un atome de zinc. On n'a strictement aucune idée du rôle de cet atome de zinc. C'est un atome de zinc entouré par 4 cystéines, et on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Ce radical, il est caractérisé par ce doublé. J'explique maintenant pourquoi on a cette forme de doublé. C'est tout simplement parce que cet électron célibataire est couplé au spin nucléaire de cet hydrogène, et ça a pour effet de voir un doublé. Vous verrez l'importance de cette information juste après. Et la structure aux rayons X que j'ai schématisée ici montre que ce radical, qui dans la structure est une alanine à nouveau, hein, je vous rappelle, mais si en réalité c'est une glycine, ce radical est très proche de cette cystéine, et vous avez le substrat, et puis une deuxième cystéine, et ce radical est trop loin du ribonucléotide pour faire quelque chose. Et puis vous avez une deuxième protéine, sans laquelle il n'y a pas d'activité, sans laquelle il n'y a rien, qui est une protéine qui est le produit du gène NRDG, qui est une petite protéine, qui a cette séquence CX3-CX2C. Ces trois cystéines servent à fixer un cluster 4-fer-4-soufre qui lui-même sert à fixer la S-adénosylméthionine. Bon, ça c'est tout simplement pour dire que c'est un système qui est d'une très très grande sensibilité à l'air. Dès que vous soumettez cette enzyme sous sa forme active à l'air, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le radical ici qui réagit très efficacement avec l'oxygène. Ça fait des radicaux peroxydes, des peroxydes, et ça conduit à la coupure de l'enzyme à ce niveau-là. Donc l'enzyme se casse. Et d'autre part, vous avez dans l'autre protéine des clusters fer-soufre qui sont très sensibles à l'oxygène et qui se dégradent. On reviendra là-dessus parce que, évidemment, si cette protéine a été présente très tôt au début de la vie, à nouveau dans une vie assez élaborée encore, hein, parce que vous voyez que c'est des systèmes très complexes, eh bien, tous les organismes qui avaient cette enzyme pour faire leur ADN et pour se multiplier, c'est les micro-organismes qui n'ont pas été capables, lorsque l'oxygène est arrivé de façon abondante à la surface de la Terre, ont disparu de la surface de la Terre parce qu'ils étaient incapables, en présence d'oxygène, de faire de l'ADN. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? À quoi sert le radical, finalement ? Eh bien, le radical va servir à la chose suivante. Il va servir à créer un radical plus proche du ribonucléotide. Et vous vous souvenez que dans le cas de la ribonucléotide réductase de classe 1, le radical tyrosinyle qui était à 35 angstrom faisait passer son radical jusqu'à une cystéine qui était proche du substrat. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Ce qui est proche du substrat, c'est une cystéine. Et celle-là, elle est à la bonne distance pour réagir avec le substrat. Ce qui n'est pas le cas du radical glycinyle. Donc l'idée, c'est que ce radical glycinyle, il sert à former un radical sur la cystéine. Il arrache un atome d'hydrogène sur la cystéine pour créer un radical cystéinyle. Ensuite, ce radical cystéinyle va arracher l'atome d'hydrogène du substrat, exactement comme dans la classe 1 que j'ai décrite la semaine dernière. Et ensuite, le formiate intervient pour faire une réduction à 2 électrons, et le H ici, qui a été arraché, revient sur ce carbone. Ce sont des choses qu'on a démontrées. Je vous le résume. Le point rouge ici, qui représente le radical, fait des radicaux intermédiaires sur le substrat, et puis quand tout est terminé, ça revient, et ça peut recommencer avec un deuxième substrat, et ainsi de suite. Donc, le radical est ici d'une certaine façon protégé, mais dès qu'il y a un substrat, évidemment, il faut que ça se passe que quand il y a un substrat, sinon ce radical passerait ailleurs, et c'est ce qui se passe. Il n'y a que quand il y a le substrat que ce radical passe sur la cystéine et la chimie se produit. Encore une fois, vous voyez que la nature, mais ça je l'ai évoqué dans mon premier cours, la nature choisit de faire une oxydation à un électron suivie d'une réduction à 3 électrons pour faire globalement une réduction à 2 électrons. Mais ça, c'est encore à nouveau parce que ce substrat est tout à fait particulier et qu'on ne peut pas faire de la réduction à 2 électrons facilement, et il faut faire de la chimie radicalaire. Voilà, bon, je ne suis pas sûr de devoir entrer dans cette chose-là. Donc, j'espère que vous avez compris à quoi sert le radical. La nature a choisi de faire de la chimie radicalaire sur les ribonucléotides pour faire de la réduction de ribonucléotides. Alors, question qui arrive derrière, c'est quand la cellule produit la ribonucléotide réductase, donc le produit du gène NRDD, c'est une glycine. La protéine qui est synthétisée d'abord n'a pas de radical. Donc il y a une étape qui doit intervenir après où cette glycine est sélectivement transformée en radical tyrosinyl. C'est une étape dite d'activation post-traductionnelle, puisque c'est après la traduction, la protéine subit une transformation. C'est une transformation tout à fait particulière, mais à nouveau, c'est le fait que cette glycine, qui avait un hydrogène ici, voit cet hydrogène arraché par quelque chose. Par quoi ? Et comment ça se passe ? Il est assez évident de penser que c'est justement la deuxième protéine, qu'on appelle l'activase, produit du gène NRDG, qui contient à nouveau ce cluster et cette S-adénosylméthionine, qui est responsable de la formation du radical. C'est à la fois évident de penser cela, puisqu'on a besoin des deux systèmes, et en même temps, à nouveau, on est confronté au problème qu'on va créer des radicaux sur cette protéine, et il va falloir aller ensuite, comme radical primaire, il va falloir ensuite aller créer ce radical glycinyl sur une autre protéine avec des transferts de radicaux. Donc c'est quand même assez compliqué. On pourrait imaginer des choses plus simples où on prend une seule protéine, il faut créer un radical ici, et puis on crée le mécanisme de formation de ce radical à côté. Bon, c'est pas, à nouveau, ce n'est pas ce que la nature a choisi. Elle a choisi d'initier la réaction sur une autre protéine. Et ceci est assez délicat parce que, si je reviens en arrière, la fameuse glycine qui doit être radicalisée, elle est au sein d'un site actif qui est très protégé, très enfoui au sein de la protéine. Et donc, comment ça se passe ? Voilà. Voilà quelques résultats qui décortiquent cette chimie. Lorsque vous prenez la protéine bêta, dans l'état réduit du cluster, c'est pour ça que vous avez un spectre RPE. Je vous rappelle que quand il n'est pas réduit, ce cluster, c'est plat. Et d'ailleurs, toute la chimie dont je vais vous parler maintenant ne fonctionne que si le cluster est réduit. Il faut qu'il ait acquis un électron. S'il est à l'état oxydé de plus, donc silencieux en RPE, il ne se passe strictement rien, il n'y a pas de formation de radical. Donc, il faut, premièrement, un électron qui s'accumule sur le cluster 4 fer 4 soufre. Vous vous souvenez que quand je rajoutais de la SAM sur ce signal, il y avait une modification qui m'indiquait qu'il y avait un complexe. Là, ce n'est pas ça que je vois parce que je rajoute de la SAM, mais je rajoute aussi la protéine alpha, donc la deuxième grosse protéine, qui contient une tyrosine, c'est-à-dire pas radicalisée, mais qui contient une tyrosine dans le site actif. Et en quelques minutes, ce spectre disparaît et je vois apparaître un radical glycinyl. Et vous voyez que ceci nous indique qu'on a un électron localisé, enfin, on a un radical d'une certaine façon localisé sur la protéine bêta qui a été transféré instantanément sur l'autre protéine sous la forme d'un radical glycinyl. Simplement après avoir additionné de la SN-adénosylméthionine et évidemment additionné l'électron nécessaire. C'est assez étonnant et en même temps c'est assez simple, il n'y a pas besoin de 36 trucs, deux protéines, un cluster 4 fer 4 soufre et de la SN-adénosylméthionine et un électron. Alors, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'au cours de cette réaction, à peu près dans des cinétiques équivalentes, eh bien, la S-adénosylméthionine subissait une transformation, c'est-à-dire non seulement... Alors, on forme à peu près un radical, un équivalent de radical glycinyl par consommation d'un spin du cluster, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a à peu près, de façon stoichiométrique, la formation de la méthionine, qui est cette partie-là, et la formation du 5' déoxyadénosine, qui est cette partie-là. Et donc, on a pu conclure qu'au cours de cette transformation, on avait une cassure de cette liaison soufre-carbone de la S-adénosylméthionine. Voilà. Alors tout ça se résume dans ce chemin électronique et radicalaire que je vais décrire maintenant. Et ça me ramène à une information que je n'ai pas du tout discutée, à savoir le rôle de la flavodoxine réductase et de la flavodoxine, que j'avais cité comme élément important. En fait, vous l'avez bien vu, il faut un électron. Eh bien, cet électron, il est fourni par ce système-là. NADPH, qui est un donneur d'électrons, flavodoxine réductase, qui est un système comportant un groupement FAD, qui est une flavine. Électron sous forme d'hydrure d'ailleurs, transféré ici, puis transféré à une deuxième protéine de transfert d'électrons, qui est une flavodoxine, vous vous souvenez que c'est une protéine qu'on avait purifiée dans le système, qui là comporte aussi une flavine, mais c'est une FMN. Et ensuite, les électrons passent sur le cluster, et ceci est une structure aux rayons X virtuelle de la sous-unité bêta, de l'activase. Nous n'avons pas obtenu de structure aux rayons X de cette protéine. Donc c'est un modèle sur la base de structure aux rayons X obtenue sur d'autres membres de la famille de ces enzymes-là dont je parlerai la prochaine fois. Donc le cluster est réduit sur l'activase. Voilà l'activase et voilà la ribonucléotide réductase, c'est-à-dire le NRDD. Je les ai mis face à face parce que, encore une fois, vous voyez que l'électron est localisé ici et le radical à créer, il est sur cette boucle. Voilà la boucle sur laquelle on va créer le radical. Donc le 4-fer 4-soufre fixe la S-adénosylméthionine, à nouveau par sa partie aminocarboxylate, vous voyez ici. Donc j'ai décrit la première étape de réduction du cluster, je parle de celle-là, donc il se forme un complexe entre le cluster et la S-adénosylméthionine. Et l'hypothèse, c'est que cet assemblage-là permet un transfert de l'électron du cluster sur la petite molécule organique. Ce faisant, vous créez un intermédiaire de type radical sulfuranyl S' au lieu de S+, et ça, c'est très instable, et vous avez une cassure homolytique de la liaison soufre-carbone qui a comme effet de donner la méthionine, d'une part, et d'autre part, le radical 5' déoxyadénosyle, c'est-à-dire avec le radical localisé sur ce carbone. Il n'y a plus de liaison ici. Voilà, c'est ce radical-là qui s'est formé dans cette protéine. Ce radical, c'est un des radicaux les plus énergétiques qui puissent exister. L'énergie de la liaison carbone-hydrogène de ce groupement méthyl, c'est de l'ordre de 100 kcal par mol. Ça veut dire que cette entité-là, elle n'a qu'une envie, c'est d'arracher un atome d'hydrogène quelque part. Et Dieu sait s'il y en a là-dedans. Et curieusement, elle n'en arrache strictement aucun autour. Ce qui est le plus fascinant, c'est que, visiblement, ce radical, il va réagir avec cette glycine qui est là. Et la réalité, c'est que c'est effectivement ça. On a pu le démontrer, je vous montre cette expérience. On s'est dit, est-ce que vraiment ce radical va directement, sort de la première protéine et va taper sur la seconde? Ce qui paraît assez curieux parce que, à nouveau, il y a de la distance, il faut faire un complexe entre les deux, et puis la glycine qui est à l'intérieur est très protégée. On a fait l'expérience suivante, c'est-à-dire qu'on a marqué à la glycine deutérée, c'est-à-dire du deutérium au lieu d'avoir de l'hydrogène, la protéine alpha. On voit bien qu'elle a été bien deutérée, puisque le radical glycinyl n'est plus un doublé, mais un singulé. Donc ça prouve bien qu'il y a bien un radical, mais que l'électron célibataire est couplé au deutérium, donc pas couplé, à un speed nucléaire. Et puis, on a fait la même manip, on a fait tourner le système, et la 5' déoxyadénosine qui se forme, parce que comme vous le voyez, l'idée c'est que ce radical arrache un atome d'hydrogène pour donner le radical glycinyl, si, et donc on forme de la 5' déoxyadénosyle avec un méthyle maintenant ici, si la glycine est deutérée, on doit trouver le deutérium ici. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est ce qu'indique, c'est-à-dire on a isolé la 5' déoxyadénosine, on a fait de la spectro de masse, et en effet, on observe que le deutérium est passé de la glycine d'une des protéines vers le radical 5' déoxyadénosyle qui était généré dans l'autre protéine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, il y a un transfert de radical direct. C'est quelque chose d'assez étonnant. Malheureusement, enfin, à nouveau, c'est assez étonnant parce que cette entité-là est d'une très très grande réactivité, va chercher spécifiquement cet atome d'hydrogène-là, entre les deux, pas d'accident, ceci se fait avec un rendement de 100%. Voilà. Malheureusement, on n'a pas la structure aux rayons X du complexe qui peut-être nous montrerait des modifications conformationnelles très importantes qui permet d'expliquer ce transfert de radical. Voilà. La dernière chose dont je veux parler qui est assez étonnante mais qu'on n'a pas encore beaucoup explorée, c'est que on s'est posé la question si la sous-unité bêta, donc l'activase, était fixée de façon très forte à son partenaire alpha, ou bien si la protéine bêta activase pouvait jouer un rôle catalytique, c'est-à-dire créer un radical sur une protéine alpha, sortir, aller créer un radical sur une autre protéine, et ainsi de suite. C'est-à-dire une seule protéine d'activase serait capable d'activer un grand nombre de protéines substrats qui est la ribonucléotide réductase. Et donc ça, dans le deuxième cas, s'il y avait un rôle catalytique, ça voudrait dire que la sous-unité bêta se fixe transitoirement. Alors, elle est dessinée ici par deux ronds parce qu'on n'a pas la structure rayons X réelle de ce bêta. Tout à l'heure, c'était un modèle. Ici, je suis revenu plus raisonnable en faisant un schéma comme ça. Le deuxième cas catalytique signifie que la protéine bêta se fixe sur la protéine alpha, transitoirement, crée le radical et s'en va. Et en effet, c'est ce qui a été démontré, enfin je vous montre ici, on a une activité totale, ici par exemple, de l'ensemble des protéines alpha d'un mélange, avec simplement 10% en quantité 0,1 équivalent de bêta. Donc l'information, c'est en effet le deuxième schéma, à savoir que c'est catalytique. Alors, donc ça veut dire que, si vous voulez, vous avez un certain nombre de protéines alpha, vous avez une protéine bêta qui se fixe, qui crée le radical, et puis ça bouge, ça va à une deuxième protéine, ça crée un radical, et puis ainsi de suite. Alors ça, c'est assez incroyable de mon point de vue. Là aussi, ça demande des informations structurales parce que vous voyez qu'il y a quand même... Si on est dans une situation où la protéine bêta se fixe à la protéine alpha de façon extrêmement forte, quand il n'y a pas le radical sur alpha, vous pouvez isoler un complexe entre les deux. Mais dès que vous avez un radical glycinyl, ça ne s'accroche plus. Ça tombe bien, parce que si ça veut tourner, comme je viens de le montrer ici, vous voyez, hein, ce schéma où vous avez cet alpha ce bêta qui se déplace d'une protéine à l'autre, il faut que, en effet, la fixation ne soit pas trop forte. Il faut qu'il puisse s'en aller. La seule différence entre les deux états, c'est qu'il y a un atome d'hydrogène qui est absent ici, au cœur de la protéine. Pour moi, c'est absolument délirant. Ça veut dire que quand cet atome d'hydrogène au cœur de cette protéine est présent, un atome d'hydrogène, hein, c'est rien, est présent, vous avez une fixation très forte entre alpha et bêta. Quand il y a un radical, il se décroche. Et la seule différence, c'est un atome d'hydrogène, il y en a des centaines, hein, d'atomes d'hydrogène dans toutes ces protéines. Donc c'est pas grand-chose. Et là, vraiment, on se demande comment ça marche. Voilà, donc on en est là. On en est, voilà l'état des connaissances sur ce système. D'une manière générale, aussi bien pour la classe 1 dont j'ai parlé la semaine dernière que pour cette classe-là, personne n'a aucune information structurale sur le complexe. La dernière fois, j'ai parlé d'une sous-unité R1 et R2 qui formaient un complexe. Vous avez vu, c'était ma première dia aujourd'hui. On n'a pas d'informations structurales sur le complexe. Ce sont des modèles dans lesquels... Bon, dans la classe 1, on a les protéines, on a les structures cristallographiques des deux protéines séparées, on les assemble, on peut faire un modèle. Dans ce cas-là, c'est pire parce qu'on n'a qu'une seule structure, on n'a pas la structure de l'autre. Donc on peut faire un modèle de l'autre et derrière ça, il faut faire un modèle de modèle et donc c'est assez compliqué. Alors que ces enzymes-là sont sans doute gérées par des modifications conformationnelles extrêmement délicates. La structure aux rayons X apporterait des informations, mais quand je parle de modifications conformationnelles, à ce moment-là, je parle de dynamique de protéines, parce que c'est plutôt de la dynamique qui va expliquer ces comportements tout à fait particuliers. C'est peut-être pas la structure, c'est peut-être pas la cristallographie qui va apporter des réponses, mais néanmoins, c'est une façon déjà intéressante d'avoir des informations sur la chimie complexe. Donc, conclusion. Après avoir vu la ribonucléotide réductase des organismes aérobies, qui met en œuvre de la chimie radicalaire avec des radicaux protéiques tyrosinyles, la nature a choisi de faire des ribonucléotides réductases et la biosynthèse des désoxyribonucléotides, donc la biosynthèse de l'ADN, en absence d'oxygène, avec un système totalement différent du point de vue chimique. Il n'y a plus de binucléaire de fer comme tout à l'heure, mais c'est un cluster 4 fer 4 soufre. Ce n'est pas un radical tyrosinyl, c'est un radical glycinyl. Et l'agent oxydant, parce que quand vous créez un radical, il faut un oxydant. Et l'agent oxydant n'est pas l'oxygène moléculaire, comme chez nous. Ici, c'est la S-adénosylméthionine. Voilà, on va la revoir, cette molécule, voilà. C'est finalement transformer une glycine en radical glycinyl. Glycine en radical glycinyl, il faut un oxydant, et cet oxydant, en fait, c'est la S-adénosylméthionine. Donc, vous voyez des systèmes très, très différents. À la fin, on reprendra ces deux systèmes. Je parlerai d'un troisième dans mon dernier cours, parce qu'aujourd'hui, à la surface de la Terre, il y a trois grandes classes de ribonucléotides réductases, les deux dont je viens de parler, et puis une troisième dont je parlerai un peu plus tard. Et on prendra cet ensemble-là et on se posera la question... Qui a inventé l'ADN? Vous pouvez déjà commencer à faire la part des choses entre la classe 1 et la classe 2. Voilà. Je vous remercie. J'en ai fini.